France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
LA602, derrière ce code énigmatique se cache un article de 1946 resté secret défense jusqu'en 1973, rédigé par des physiciens du projet Manhattan et dont le titre complet est « Ignition de l'atmosphère terrestre par des bombes nucléaires ». Dans ce texte, les scientifiques responsables de la conception de la première bombe atomique expliquent pourquoi ils n'ont pas exclu le risque d'un embrasement total de l'atmosphère terrestre à l'issue du premier test de la bombe. Si l'atmosphère n'a pas brûlé, cet article nous pose une question vertigineuse. Alors que la vie de la Terre entière était en jeu, pourquoi a-t-on décidé de placer le destin de l'humanité entre les mains d'une théorie physique toute jeune, dont l'objet d'étude avait été jusqu'alors maintes fois redéfini ? Et pour parler de ce sujet à la fois fascinant et inquiétant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Damien Gaillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, professeur à l'Université de Grenoble, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous êtes l'auteur de « Et l'atmosphère ne brûla pas, histoire et philosophie des particules élémentaires » paru aux éditions Calvage et Mounet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de ce rapport LA602 et plus généralement de la confiance et de la crédibilité qu'on accorde à une théorie scientifique quand il s'agit d'enjeux aussi graves et potentiellement dévastateurs, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons sur le site de Saint-Césaire, en Charente-Maritime, où des archéologues ont retrouvé le plus vieil atelier de parures en coquillage d'Europe de l'Ouest, vieux d'au moins 42 000 ans. On se demandera comment cette découverte nous éclaire sur cette période de transition culturelle désignée sous le nom de Châtel Péronien, durant laquelle se sont côtoyés les Néandertaliens et les Homo sapiens. Mais avant de parler de cette belle découverte, faisons retour à notre histoire des sciences du jour. Une histoire des sciences qui nous place face à des enjeux, je le disais, vertigineux, mêlant physique et éthique. On va se demander comment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pu faire le pari risqué de développer une bombe atomique sur la seule base des dernières théories physiques, en excluant pas totalement l'éventualité pure et simple d'une apocalypse liée à l'explosion de la première bombe atomique. Damien Gaillet, passer ce préambule un peu angoissant, on va bien sûr se rassurer, mais Damien Gaillet, avant de commencer, j'aimerais savoir déjà comment vous avez débuté, vous, votre travail d'enquête sur ce sujet, une enquête qui a abouti, je le disais, au livre intitulé « Et l'atmosphère ne brûla pas ».
Alors, il faut peut-être remonter à ma formation. Donc, je suis mathématicien, j'ai une formation de mathématicien assez classique, mais j'ai toujours eu deux autres passions que sont la physique et la philosophie. Et lorsque j'étais maître de conférence à Lyon 1, j'ai commencé à faire des cours à l'université de... À l'époque, on disait 3e âge, maintenant on dit plutôt université ouverte. Et donc, j'avais mis à profit cette triple formation pour parler un peu de philosophie des sciences. Et le premier thème, c'était l'astronomie, avec un point de vue philosophique. Donc, j'en ai tiré un livre que j'ai publié il y a 10 ans. Et le deuxième thème, c'était la philosophie des particules élémentaires. Et donc, ça m'a pris tellement de temps, en fait, ça m'a pris toutes mes soirées, tous mes week-ends, toutes mes vacances pour préparer ça. Je me suis dit, je vais rentabiliser cet effort. Donc, j'ai fait ce premier livre et là, j'en ai fait un deuxième. En commençant à le préparer, je suis tombé sur ce rapport qui m'a littéralement scotché. J'ai trouvé ça absolument incroyable qu'un tel texte existe, qui était à l'époque très très peu connu. Je dis à l'époque puisqu'il y a entre-temps il y a le film sur Oppenheimer qui est passé.
Bien sûr, de Christopher Nolan.
Donc la question a été un peu rendue publique, mais à l'époque c'était très peu connu. Le rapport, je l'ai trouvé un peu dans un coin d'internet et ça m'a absolument passionné. Je me suis dit c'était un bon ancrage pour le développement de ce livre.
Quelles ont été les principales, finalement, questions qui se sont posées à vous à partir du moment où vous découvrez ce rapport? Ce rapport, donc, je le rappelle, écrit par des physiciens du projet Manhattan qui n'excluent pas totalement le risque que leur projet, finalement, embrase l'atmosphère.
Voilà, donc dans cet article, qui est classé comme un rapport de Los Alamos, donc comme vous l'avez dit, qui a un petit nom sympathique, qui est LA602, donc qui était Secret Défense. Par exemple, sur la couverture, c'est écrit « Ne pas sortir de cette salle ». C'est assez amusant. L'idée que proposent les physiciens, c'est, on va le voir en détail tout à l'heure, c'est que l'augmentation de la température due à l'explosion d'une bombe nucléaire peut commencer à produire un phénomène indirect, pas du tout voulu, qui est la fusion des atomes d'azote, qui fait augmenter la température de l'atmosphère et qui pourrait propager cette fusion à toute l'atmosphère intégralement de la Terre. Et pour que cela n'arrive pas, il y a un deuxième phénomène qui est dû aux électrons, donc qui s'appelle le rayonnement par freinage, et qui va contrebalancer cette augmentation de la température. Et donc tout le travail de l'article, c'est d'estimer quantitativement les deux phénomènes, l'augmentation et la dissipation de l'énergie, et de voir qui va gagner. Et donc on a un facteur de sécurité qui est appelé comme ça dans l'article, qui est le héros dramatique de cet article tragicomique, hein, d'une certaine façon, qui est le rapport entre cette perte d'énergie et ce gain d'énergie. Et si ce rapport est grand, eh bien, l'atmosphère ne s'embrase pas. Si ce rapport est petit, l'atmosphère s'embrase. Et donc, j'ai trouvé ça absolument fantastique d'essayer de comprendre comment ces physiciens, malgré le risque, comme vous l'avez dit, d'embrasement de la Terre, de l'atmosphère terrestre, ont réussi à faire confiance à toutes leurs théories, qui, je le rappelle, étaient assez récentes. Par exemple, la théorie de la fusion datait de 1930.
On va parler justement de cette... Parce qu'il se passe entre, en gros, l'article d'Einstein en 1905 sur le mouvement brownien et le 16 juillet 1945, l'explosion de la première bombe atomique test Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique. Il se passe 40 ans de découvertes capitales pour l'histoire de la physique, mais qui aussi ont conduit à ce développement de la bombe atomique. Est-ce qu'on peut faire justement, Damien Gaillet, à pas de géant, un rappel sur les prérequis théoriques en matière de physique pour le développement d'une telle arme?
Alors peut-être on peut rappeler à l'époque comment on considérait la matière et après je rappellerai historiquement comment théories sont survenues. Donc à l'époque on considérait que la matière était composée d'éléments très petits. Quand je dis très petit, c'est un 1/10 millionième de millimètre. Donc l'esprit humain ne peut absolument pas considérer ces échelles. Et ces éléments petits, ce sont les atomes. L'atome lui-même, on a compris à partir du début du XXe siècle que lui-même était composite et en fait très hétérogène. C'est-à-dire qu'au centre de l'atome se trouve un noyau qui a une taille qui est 100 000 fois plus petite que la taille de l'atome. Et en plus qui contient quasiment toute la masse de l'atome, c'est-à-dire 999 sur 1000 de la masse. Alors qu'est-ce qui reste, vous allez me dire? Eh bien, il reste les électrons qui se virevolte ou qui crée un nuage quantique autour de ce noyau et qui se propage dans toute la dimension de l'atome. Mais pour comprendre la bombe nucléaire, il faut zoomer encore une fois à l'intérieur du noyau et savoir que le noyau est composé de deux types de particules qui sont cette fois les protons et les neutrons. Au niveau des masses, c'est à peu près les mêmes. Par contre, comme son nom l'indique, le neutron est neutre électriquement et le proton est chargé positivement. Alors ceux-là, ils sont très denses, ils sont serrés les uns comme les autres, comme des sardines dans une boîte. Et les protons, donc comme ils ont une charge positive, pour que l'atome soit rendu neutre, il faut que le nombre d'électrons qui soit autour de ce noyau soit du même nombre que ces protons. Et grosso modo, il y a à peu près autant de neutrons que de protons. Et alors peut-être historiquement...
Oui, si on repart d'Einstein, donc on comprend bien à partir d'Einstein, donc ce mouvement brownien finalement initie ce zoom dans la structure de l'atome que vont réaliser notamment des gens comme Jean Perrin, comme Rutherford. Il y a bien sûr aussi le développement de la mécanique quantique dans les années 20 qui vont nous permettre de comprendre cette structure de l'atome. À partir de quand finalement on va commencer à comprendre ce que sont concrètement les réactions nucléaires?
Alors, je dirais déjà, l'existence du noyau, c'est 1911, donc c'est juste après les travaux de Perrin de 1910 qui ont permis de effectivement comprendre et de vérifier les travaux théoriques d'Einstein sur les atomes. Donc en 1910, on est persuadé maintenant que la matière est faite d'atomes. En 1911, Rutherford, qui dirige... deux post-docs, maintenant, on dirait, qui sont Marsden et Geiger. Geiger, c'est le Geiger éponyme du compteur Geiger. Et donc, ces deux post-docs découvrent une réaction très surprenante quand on envoie des noyaux alpha sur des feuilles d'or. Et Rutherford, en 1911, considère que l'atome n'est pas effectivement cette entité homogène, mais est composé d'un noyau qui a une taille beaucoup plus petite. Ensuite, effectivement, la mécanique quantique, c'est 1926, où là, on comprend... Alors, la mécanique quantique a plusieurs effets. Donc, elle permet en particulier de comprendre, par exemple, la radioactivité alpha, le fait que des noyaux spontanément peuvent changer de nature en émettant des noyaux alpha qui sont en fait des noyaux d'hélium. Là, on est en 1928, pardon, 2 ans après la mécanique quantique, et c'est une théorie très jolie d'un physicien soviétique qui s'appelle à l'époque Georgi Gamov, qui va passer aux États-Unis et maintenant qui est appelé George Gamow. Juste une petite anecdote, je peux sur...
Allez-y, je vous en prie.
Donc, Gamow, il était soviétique et en 1932, il en avait visiblement assez de l'Union soviétique, il voulait passer à l'Ouest. Et donc, il décide avec sa femme de partir du sud de la Crimée en kayak pour essayer de rejoindre la Turquie, qui est quand même éloignée de 300 kilomètres de la Crimée. Le premier jour, il souffre déjà pas mal, juste physiquement. Le deuxième jour, il y a un vent contraire. Le troisième jour, il commence à avoir des hallucinations. Et donc, il rentre en Crimée. Et finalement, il réussira à passer à l'Ouest par des méthodes...
Il faudra qu'on fasse, du coup, un épisode de Science Chrono sur le périple kayak de
Georges Gamow. Et Gamow, c'est un personnage assez passionnant. Bref, donc Gamow, c'est la première théorie basée sur la mécanique quantique de la radioactivité alpha. Ensuite, on a les découvertes du neutron qui est faite par Chadwick en 1932. Ouais. D'ailleurs, qui se base, comme vous avez dû le dire dans d'autres émissions sur les Curie, qui se base sur les travaux d'Irène Curie et de Frédéric Joliot.
La science CQFD en parlait cette semaine.
Exactement. Donc là, on a un nouveau constituant. Donc on rentre dans une échelle supérieur à l'intérieur du noyau pour l'existence de ce neutron. Et ce neutron est fondamental dans tous ces problèmes nucléaires grâce au fait qu'il n'a pas de charge. Parce que si vous envoyez un proton sur un noyau, comme le noyau est chargé positivement, le proton va être freiné et assez rapidement et va rebrousser chemin. Mmh. Alors que les neutrons peuvent pénétrer assez facilement la barrière électrique de ces noyaux et donc rentrer dans les noyaux.
Ces réactions nucléaires, finalement, cette compréhension des réactions nucléaires, on les doit notamment à Enrico Fermi, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait.
Lui, justement, se sert des neutrons, va bombarder, justement.
Voilà, les exactement.
Pour, établir que certains éléments deviennent radioactifs à partir de ce bombardement-là.
Exactement. Puisqu'en général, quand un noyau absorbe un neutron, il devient instable et donc se transforme en émettant de la radioactivité. Soit sous forme noyau alpha, comme on l'a dit, soit de rayonnement gamma, etc.
Et c'est ce qui pose les bases, finalement, de la compréhension plus tardive. Alors, pas beaucoup plus tardive, on parle de 4-5 ans, de la fission nucléaire.
Voilà, et là, c'est vraiment l'événement fondamental pour cette histoire de bombe, c'est 1939. On a un trio, alors à ce moment-là, c'est un duo, qui est dû à Fritz Strassmann, surtout Otto Hahn, et surtout Lise Meitner. La science CQFD a fait une émission
en septembre
pour parler de son cas.
On a partagé tous ces liens, mais finalement on tourne autour de ce sujet depuis un moment, donc c'est parfait, on a plein d'éléments à partager.
Voilà, donc Strassmann et Otto Hahn, qui avaient travaillé pendant longtemps avec Lise Meitner, qui avait dû quitter l'Allemagne quelques années avant à cause de sa judéité, mais c'était vraiment un travail de groupe, découvrent que des atomes d'uranium peuvent se casser. Justement, ils ne l'interprètent pas comme ça. Ils découvrent qu'ils ont des atomes beaucoup plus petits, la moitié en masse de l'atome d'uranium. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont découvert. Ils posent la question à Lise Meitner par courrier, qui se trouve au Danemark, je crois, à ce moment-là. Mm-hmm. Et Lise Meitner comprend qu'en fait, ils ont découvert la fission de ces gros atomes d'uranium en 2 fragments qui sont de masse à peu près égale et de moitié.
Alors, Damien Gaillet, on parle de 1939. 1939, qui est une année évidemment capitale dans l'histoire du XXe siècle, le début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que dès la découverte de la fission, on envisage le potentiel destructeur de cette découverte au point de tout de suite penser à une arme nucléaire?
Immédiatement. En fait, Lise Meitner, elle-même, avec l'aide de son neveu Otto Frisch, avait estimé l'énergie libérée par ces fissions de noyaux d'uranium. Et donc, toute la communauté nucléaire comprend immédiatement que il est possible que cette énergie serve soit à de l'énergie civile, soit à de l'énergie militaire. Et ensuite, quand on a compris que quand ces fragments se cassent, ils émettent en fait des neutrons qui vont permettre de casser d'autres neutrons très rapidement.
Réaction en chaîne, finalement.
Voilà, très rapidement, la notion de réaction en chaîne naît dès 1939. Et pour exemple de cette réaction, pas en chaîne, mais des physiciens, il y a une lettre de Szilard et de Einstein à Roosevelt qui décrit en octobre de 1939, je crois, ouais, qui écrivent à Roosevelt pour dire que si on ne le fait pas, les Allemands, qui sont à la pointe de la physique nucléaire à ce moment-là, vont développer une arme nucléaire basée sur...
Donc là, s'oppose immédiatement ce cas de conscience, voilà, à ces savants qui étaient philosophes aussi, également, de savoir...
Einstein était pacifiste.
Einstein était évidemment pacifiste, et c'est quelque chose qu'il mentionne souvent. Il se disait, c'est soit nous, soit les nazis qui développent cette bombe. Donc, j'ai pas pu me ranger à d'autres conclusions que celle d'accompagner ce mouvement-là, mais bien malgré mon pacifisme. Si on doit faire un petit mode d'emploi rapide de comment fonctionne une bombe atomique, avant de parler de ce test de Trinity, et puis surtout de cet article LA-602, ça fonctionne comment, du coup, cette maîtrise de l'énergie atomique au sein d'une bombe?
Alors, donc en fait, il n'y a pas vraiment de maîtrise, puisque on laisse la réaction en chaîne se faire. Il faut imaginer un neutron qui se promène dans un petit morceau d'uranium. En général, il va, parce que les atomes d'uranium sont très, très écartés les uns des autres, proportionnellement à leur taille. Mais en général, au bout d'un moment, si la masse est suffisamment grande, ce petit neutron va rencontrer un noyau d'uranium, casser ce noyau d'uranium. Ce noyau d'uranium va se séparer en deux fragments, comme on l'a dit, qui sont de taille moitié à peu près. Et ces fragments, à cause de l'équation E égale MC2 d'Einstein découverte en 1905, ces fragments en fait ont une très forte énergie qui vont faire augmenter la température. Donc ça, c'est la source d'énergie principale de cette fission. Mais par ailleurs, pourquoi la réaction en chaîne est possible ? Quand la fission se crée, non seulement il y a deux fragments, mais la fission émet 2 à 3 neutrons qui eux-mêmes vont aller taper, si jamais, encore une fois, la masse est suffisamment grande, d'autres noyaux. Et là, on conçoit tout de suite que si à chaque fois on multiplie le nombre de noyaux par 2 ou 3, eh bien, on va faire augmenter très rapidement la température. Et quand je dis très rapidement, il faut avoir en tête que les neutrons, leur vitesse d'échappement de cette fission, c'est 10 000 km secondes. Donc ça va extrêmement vite. Et donc une bombe nucléaire fonctionne comme ça. Vous mettez une masse suffisamment grande pour que les neutrons soient captifs de cet uranium. Et en une fraction de seconde, la température passe de 20 degrés, température ambiante, à quelque chose comme 50 millions de degrés. Et donc là, on conçoit...
Des températures bien, bien supérieures à des températures qu'on peut observer au cœur du Soleil, même...
Voilà, exactement. Le Soleil, c'est 15 millions de degrés. Là, on est au-dessus.
Alors, on en vient au cœur de notre discussion. Damien Gaillet, cet article de 1946, intitulé « Ignition de l'atmosphère par des bombes nucléaires », placé sous le nom de code LA-602, LA pour Los Alamos, donc cet endroit où on faisait les tests de cette première bombe atomique. On écoute un extrait de l'introduction de ce texte. La lecture vous est faite par Laurent Blanpin. C'est l'archive de Science Chrono.
La détonation d'une bombe à fission ou thermonucléaire produit une température élevée qui stimule la réaction des noyaux atomiques de l'air entre eux. Si un seuil d'embrasement existe et est atteint, la réaction thermonucléaire peut se propager à toute l'atmosphère. La propagation de la réaction exige que la production d'énergie dans chaque nouvelle zone touchée soit supérieure aux pertes d'énergie de cette zone. Cette énergie se présente sous la forme de l'énergie cinétique des particules issues des réactions nucléaires exothermiques. Par collision, ces particules cèdent leur énergie aux particules de l'air et contribuent au maintien de la température. En revanche, une partie de l'énergie cédée aux électrons est rapidement dissipée par rayonnement. Ce rayonnement constitue la principale perte d'énergie. La température, si elle existe, à laquelle le taux de production d'énergie est égal au taux de perte par rayonnement, sera la température d'embrasement. Compte tenu des incertitudes liées à la connaissance de ces processus, il convient d'exagérer les risques dès qu'un point semble sujet à caution.
Voilà, Damien Gaillet, un extrait de cet article LA-602. Qu'est-ce qui motive la rédaction de cet article après le premier essai de la bombe atomique, après le 16 juillet 1945, puisque je le rappelle, cet article date de 1946.
Voilà, alors déjà, peut-être rappeler que cette question de l'embrasement possible de l'atmosphère a été posée assez tôt, dès 1942. On sait que Edward Teller, qui est le troisième co-auteur de cet article.
Le père de la bombe à hydrogène, lui.
Exactement. Donc, c'est un personnage lui-même. Il faudra faire une émission sur lui.
Oui.
Aussi. Et donc, la question a été posée. À l'époque, le spécialiste vraiment de la fusion, c'est Hans Bethe, qui est à Los Alamos, qui fait les calculs et qui considère que c'est pas possible. Mais en 1946, donc après la bombe nucléaire, tout le monde sait qu'une nouvelle ère commence. Et l'ère, elle est glaçante. C'est une ère nucléaire avec la construction non seulement de bombes de plus en plus puissantes à fission, mais tout le monde sait qu'en un temps fini, les physiciens vont réussir à produire des bombes à hydrogène avec des puissances absolument monstrueuses par rapport.
Parce que on rappelle la différence entre une bombe atomique et une bombe à hydrogène. Alors là, il y a une réaction de fission qui est provoquée dans la bombe atomique, et la bombe à hydrogène va plus se baser sur des réactions de fusion qui vont considérablement augmenter les températures dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, exactement. Donc la bombe à fusion, c'est l'inverse de la fission, c'est-à-dire on chauffe l'air suffisamment, ou chauffe du deutérium, enfin des éléments en tout cas très légers par rapport à l'uranium, et c'est les éléments légers quand la température est suffisamment haute vont fusionner, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'inverse. Il y a le même phénomène de production d'énergie qui fait que la température augmente. Et ça fait des bombes, une fois qu'on a fait le calcul, beaucoup plus puissantes que celles de la fission.
On parle de tout ça de façon distante, quasiment légère. On rappelle qu'en août 1945, il y a quasiment 150 à 210 000 morts, ne serait-ce que pour les explosions d'Hiroshima et Nagasaki. C'est colossal, le pouvoir destructeur de ces bombes-là. Et on l'évoquait tout à l'heure, ces savants, ces physiciens, eux-mêmes posaient sur la table en 1942 ce terrible risque, la possibilité terrible de cet embrasement de l'atmosphère, c'est les termes de Robert Oppenheimer. Comment ils s'accommodaient finalement de ce risque-là et comment ils sont parvenus à l'écarter?
Alors je pense qu'ils l'ont considéré de façon très froide à la physicienne. Enfin, je ne veux pas dire que les physiciens sont des gens froids, mais ils l'ont fait de façon scientifique. Ils ont fait ces calculs, ils ont considéré que le résultat était, comme je parlais du rapport de facteur des sécurités tout à l'heure, a été strictement plus grand que 1, et même beaucoup plus grand que 1 dans des conditions d'explosion. Et donc, ils ont considéré que le risque était nul. Voilà, donc je pense l'enjeu pour eux était tellement fort de produire cette bombe nucléaire, et la réalité de cet embrasement manifestement nul, enfin nul ou en sens improbable, donc ils ont considéré il fallait mieux fabriquer la bombe et la faire exploser.
On peut écouter un morceau de la conclusion justement de ce rapport, LA602. C'est la deuxième archive de Science Chrono. On ne fait pas trop souvent ça, mais là on se le permet. Et la lecture vous est encore faite par Laurent Blanpin.
Même si la réaction était stoppée dans une sphère de quelques centaines de mètres de rayon, le choc terrestre qui en résulterait et la contamination radioactive de l'atmosphère pourrait avoir des conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale. On peut conclure que les arguments de ce document rendent inconcevable la propagation de la réaction N plus N. Une propagation sans limite est encore moins probable. Cependant, la complexité de l'argument et l'absence de fondements expérimentaux satisfaisants rendent d'autres travaux sur le sujet hautement souhaitables.
Voilà, ces physiciens sont quand même, malgré tout, Damien Gaillet, assez prudents et disent qu'il faut continuer à faire des recherches parce que c'est hautement souhaitable. Alors comment vous percevez cette conclusion-là qui est à la fois rassurante et en même temps qui ouvre la porte à une forme de doute?
Alors effectivement, il y a à la lecture de ce texte, on peut penser à un certain nombre d'inquiétudes. La première inquiétude, c'est évidemment, est-ce qu'ils ont fait les bons calculs? Est-ce qu'ils avaient les bonnes estimations de, par exemple, la fusion de ces atomes d'azote? Là, c'est NN
plus N,
plus N dans le texte. La réponse, par exemple, est non. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en possession de la probabilité de fusion de deux atomes d'azote, qu'on appelle la section efficace. Ça a été fait plus tard. Mais par contre, ils avaient pris des hypothèses beaucoup plus strictes, enfin, beaucoup plus légère pour permettre la fusion de ces atomes. Par exemple, dès que les atomes se croisaient, ils fusionnaient. Donc, on ne pouvait pas faire pire comme hypothèse. Donc, il y a ce... En général, comme ça a été dit dans le premier texte mentionné tout à l'heure, ils ont pris les hypothèses les plus dures et les plus dangereuses pour écrire le rapport. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont pensé à tout ? Et ça, c'est une vraie question, parce que en 1954, donc 9 ans après donc 8 ans après ce rapport, il y a eu une véritable catastrophe nucléaire qui était due à la non-méconnaissance des physiciens de certains phénomènes. Et cette catastrophe donc, a été due à une explosion thermonucléaire donc, qui s'appelle Castel Bravo, qui était dans les îles Marshall. Oui, je crois.
Dans le Pacifique, en tout cas.
Dans le Pacifique. Quand ils ont fait exploser la bombe, donc c'est une bombe à fusion. Quand ils ont fait exploser la bombe, ils se sont aperçus que la bombe était 3 fois plus puissante que ce qui avait été calculé théoriquement.
Ce qui a provoqué la mort de civils qui étaient en mer à ce moment-là.
Voilà, exactement.
Des cancers en grand nombre, etc.
Exactement. Donc, encore maintenant, il y a des gens qui meurent de cancer sur les îles de Rongelap à cause de cet échec. Qu'est-ce qui avait été oublié ? C'est que le lithium-7, quand il absorbe un neutron, il peut se fragmenter en un tritium et un hélium. Et le tritium contribuait en fait à la fusion de la bombe. Et ça, les physiciens n'y avaient pas pensé. Mmh. Donc la possibilité d'oublier des phénomènes physiques dans ce calcul existe réellement. Et dans ce texte également.
Ça, c'est une des dimensions, finalement, vous parlez dans votre sous-titre de votre livre de philosophie des particules élémentaires, c'est une des dimensions philosophiques de ce sujet, c'est on va mener une expérimentation malgré des inconnus qui ne sont pas sans conséquences, comme on le voit là. Il y a d'autres dimensions extrêmement philosophiques dans ce cas-là. La première, c'est est-ce que finalement, on a déjà été confronté dans l'histoire de l'humanité à une découverte scientifique qui conduit au bord d'un tel gouffre, on va dire, vital? Parce que là, on parle d'apocalypse, quoi, qui est envisagé quand même par ces chercheurs, donc c'est pas rien.
Alors, je pense que non. De toute façon, là, l'hypothèse, si jamais embrasement de l'atmosphère il y avait, on avait non seulement la disparition du vivant, mais disparition tout simplement de l'atmosphère telle qu'on la connaît. Donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire pire. Et par contre, pour d'autres inventions qui auraient pu avoir une grande conséquence, je ne crois pas. Mmh. Par contre, en 2008, il y a eu des plaintes portées contre le LHC, le collisionneur de Hadron, aux États-Unis, à Hawaï, puisque les deux plaignants, supposaient qu'il pouvait y avoir des petits trous noirs qui se créeraient lors du choc. Et ces trous noirs absorberaient l'intégralité.
Une autre question, Damien Gaillard, que je me pose en vous écoutant et en lisant ce travail, et puis en repensant finalement à cette histoire qui est quand même une histoire capitale dans l'histoire des applications scientifiques, c'est celle aussi de la confiance qu'on accorde à un paradigme scientifique qui est relativement jeune. On disait tout à l'heure, en 40 ans, il y a eu des développements tellement énormes. Ma dernière question, puisqu'on approche à la fin de l'émission, c'est comment caractériser cette confiance-là qui semble aveugle et en plus qui est réalisé dans une forme d'urgence à développer une bombe pour se défendre et pour attaquer.
Alors, le côté récent de toutes ces théories ne doit pas faire oublier que toutes ces théories fonctionnaient à merveille expérimentalement. Mmh. Donc, la mécanique quantique, le mouvement brownien, comme on l'a dit, toutes les théories des électrons, tout était mesuré avec une précision exceptionnelle. Et pour ce qui concerne la fusion, y avait un argument qui était très fort et que je trouve assez joli. C'était l'aide d'un domaine de la physique qui, a priori, n'a absolument rien à voir, qui est l'astrophysique. Mmh. Parce qu'en 1920, en fait, l'idée de fusion est née en 1920 avec un physicien britannique qui s'appelle Eddington, qui essayait de comprendre d'où vient l'énergie du Soleil. Et il l'a interprété comme étant le résultat de fusion d'éléments légers dans le Soleil. Et la notion de fusion est née là. Et l'apogée de ces liens entre fusion mesure de fusion expérimentale dans les laboratoires et ce qui se passe dans le Soleil, c'est en 1939, le Hans Bethe dont on a déjà parlé, qui arrive à calculer la luminosité des étoiles juste avec un principe théorique de la fusion. Donc la confiance était extrêmement forte dans toutes ces théories.
Merci beaucoup en tout cas à vous Damien Gaillard d'être venu nous parler de cette histoire. Je rappelle le titre de votre livre « Et l'atmosphère ne brûla pas, histoire et philosophie des particules élémentaires » paru aux éditions Calvage et Mounet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Say.
Los Alamos par Jeff and Jane Hudson dans Science Chrono pour tourner cette page nucléaire. On se dirige à présent vers un sujet un peu moins anxiogène. On va aller faire des bijoux en coquillage.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
50 ans après sa découverte fortuite et des décennies de fouilles, le site de la Roche à Pierrot à Saint-Césaire en Charente-Maritime refait parler de lui. Une étude parue récemment dans la revue PNAS rapporte en effet la découverte sur ce site du plus vieil atelier de parure en coquillage d'Europe de l'Ouest, datant d'au moins 42 000 ans. Cette découverte a plus d'une surprise dans son sac. Elle montre non seulement que les groupes humains qui occupaient la région à cette époque maîtrisaient déjà des pratiques symboliques complexes. Elle vient aussi enrichir notre compréhension du châtel péronien, cette culture à la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieure. Enfin, les coquillages de ces parures viennent du littoral atlantique situé à 100 km du site, ce qui témoigne de mobilité ou d'échanges que nous cherchons encore à comprendre finement. Et vous l'aurez compris donc, Saint-Césaire est de retour. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Crèvecœur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Et vous êtes la co-autrice de l'étude parue dans la revue PNAS. Cet article, je vous en donne le titre traduit en français. Diversité culturelle châtelperronienne à ses limites occidentales, perles en coquillage et pigments provenant de la Roche à Pierrot, Saint-Césaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles votre découverte est particulièrement riche, Isabelle Crèvecœur, il nous faut parler de ce site qui est exceptionnel. C'est le site pas forcément très connu de la Roche à Pierrot, pas forcément très connu du grand public. Alors à quand remontent les premières découvertes sur ce site-là? Qu'est-ce qu'on a trouvé en premier à la Roche à Pierrot?
Oui, le site, il est mondialement connu dans le milieu scientifique, en tout cas pour tous les préhistoriens, parce que tout d'abord, il documente une période de la préhistoire qui est vraiment celle qui nous passionne peut-être le plus. C'est celle de la disparition des derniers Néandertaliens et de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. On est sur une période de temps pour le site de la Roche à Pierrot qui couvre entre 30 000 ans, entre 60 000 et 30 000 ans d'histoire. Donc on a une succession d'occupations qui sont documentées là. Déjà ça, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas énormément de sites en France et en Europe.
Sur cette continuité-là.
Voilà, qui documente cette transition. Et puis, ce site, il a beaucoup fait parler de lui en 1979, lors de la découverte donc par François Lévesque, qui était responsable des fouilles à ce moment-là, d'un squelette néandertalien, partiel, il n'est pas totalement complet, mais assez bien conservé. C'est un des derniers squelettes complets bien conservés, en tout cas découverts en France, in situ. Et ce squelette, il a été trouvé dans un niveau, donc parmi ses occupations, qui est dit un niveau de transition, le fameux niveau châtelperronien. Et cette découverte, elle a un petit peu rebattu les cartes de la préhistoire à ce moment-là, puisque jusqu'à cette découverte, la plupart des préhistoriens considéraient que ce châtelperronien, cette industrie lithique, cette manière de tailler en fait les pierres et les outils, était plutôt l'œuvre d'Homo sapiens. Et cette découverte donc d'un squelette associé avec des pièces châtelperroniennes vient changer quelque part ce paradigme en préhistoire à cette époque-là.
À partir de cette découverte donc de ce squelette de néandertalien qu'on a baptisé Pierrette, il y a eu d'autres travaux de fouilles qui ont été menés durant la décennie 80. Est-ce qu'on peut parler de découvertes aussi importantes que Pierrette ou bien est-ce qu'on a consolider finalement nos nouvelles connaissances finalement sur le châtelperronien?
Eh bien, pendant toute la dizaine d'années que François Lévesque va prendre pour fouiller ce site, il va fouiller toutes les occupations, mais c'est vrai que ça va surtout être ce niveau-là qui va être très documenté et mis en avant, un niveau aussi moustérien, plus ancien.
Moustérien, donc pour le coup, vraiment associé à Néandertal.
Tout à fait, associé à Néandertal, donc cette industrie associée clairement à Néandertal est plus ancienne que ce niveau-là. Mais en fait, il y avait toute une série d'autres occupations et peut-être même ce niveau châtelperronien lui-même qui n'avait pas en fait livré tous ses secrets ou qui méritait une réévaluation. Parce que il faut savoir aussi que le squelette, quand il a été découvert, comme souvent en archéologie, il est découvert à la fin de la campagne de fouilles, et donc il a été prélevé en bloc pour pouvoir être fouillé après en laboratoire, ce qui fait qu'on a perdu une partie du contexte. Et finalement, après des décennies de fouilles, une richesse énorme dans ce gisement, eh bien, il manquait encore tout un temps d'études et d'analyses qui avaient été faites sur certains points, mais qui nécessitaient d'être complétées.
Donc ça, c'est la décennie 2000, finalement, le début des années 2000 qui a été cet autre travail archéologique capital, qui est celui de l'examen ou du réexamen des collections. À quel type de connaissances et de conclusions ont mené ces réexamens de collections?
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un énorme travail qui a été mené par tous les membres de l'équipe de ce projet de réévaluation des collections, initié par Jean-Guillaume Borde, porté ensuite par François Bachellery et Brad Gravina. Donc l'étude, c'était vraiment d'essayer de comprendre si ces assemblages, en fait, étaient cohérents. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes. Des problèmes de lecture qui pouvaient peut-être être liés à des bouleversements, des modifications géologiques qui auraient peut-être mélangé certains niveaux. Et finalement, ce niveau châtelperronien décrit comme tel, eh bien, il n'y avait que 5% de pièces châtelperroniennes dans ce niveau. La plupart du matériel lithique, c'était du moustérien. Donc ça posait énormément de questions. Dans d'autres niveaux de ce même site, eh bien, d'autres découvertes ont remis en question toute cette stratigraphie. Et c'est vraiment lié à ce travail de réévaluation des collections anciennes, de la faune et du lithique, que le projet de retour sur le terrain s'est mis en place au début des années 2010.
Quelles étaient justement les grandes questions, puisque vous dites que ce réexamen qui a perturbé finalement notre compréhension de ce site-là, quels ont été du coup les fils rouges de ce retour sur le site de La Roche-à-Pierrot?
Donc les fils rouges, essentiellement, c'était de pouvoir, avec les techniques actuelles, avec les développements méthodologiques, redonner un cadre chronologique bien précis à l'ensemble de ces couches, mais aussi de faire des prélèvements géologiques pour essayer de comprendre tous les processus qui ont pu participer aux dépositions qu'on en observe, mais aussi peut-être au mélange des occupations, essayer de comprendre cette dynamique en fait de formation du site, qui était essentielle pour pouvoir décrire en tout cas ces occupations.
Alors je disais tout à l'heure, on peut peut-être rappeler, parce que ça fait écho joliment à cette découverte de cet atelier de parure de coquillage, on peut peut-être rappeler les conditions dans lesquelles ont été découvertes les premiers vestiges sur ce site de La Roche-à-Pierrot, et ensuite on va arriver à la découverte de ces coquillages. Tout ça s'est fait un peu par hasard.
Oui, tout à fait. Il faut savoir donc que quand on repart sur le site, au départ on fait des prélèvements dans les coupes existantes, et puis par hasard on découvre une zone du site qui est extrêmement bien conservée. Et pas c'est pas peu de le dire, c'est-à-dire que l'enregistrement sédimentaire est le plus épais, on a la meilleure résolution possible pour aller décortiquer la succession des occupations. Donc le projet devient un projet pluriannuel où on se dit que c'est pas seulement des échantillonnages qu'on va faire, c'est vraiment une fouille de l'ensemble de cette séquence avec les techniques actuelles qui vont nous permettre de comprendre tout ça. Et en 2015, quand je reprends la direction du chantier, on trouve en nettoyant certaines zones un coquillage percé. Donc avant de vraiment commencer la fouille de ce niveau en particulier. Et il faut imaginer, c'est un coquillage, ça fait moins d'un centimètre. Ça ressemble peut-être à un petit bout de calcaire quand c'est entouré de sédiments, et c'est dans le cadre du tri de la fouille, une étudiante va identifier cette pièce avec une perforation. Donc ça nous a mis tout de suite la puce à l'oreille. On s'est dit, oh là là, peut-être que il y a quelque chose là dans ce niveau auquel il va falloir faire attention. Et 3 ans plus tard, quand on arrive enfin sur ce niveau de manière un peu plus étendue, eh bien, on a la chance de voir que c'était pas juste une coquille percée, mais des centaines de fragments associés à des pigments. Et finalement, on a eu énormément de chance de trouver ça peut-être en amont, parce que ça nous a permis de l'identifier sur le terrain directement.
Et d'être vigilant finalement à la découverte d'autres coquillages. Alors décrivons-les, ces coquillages, parce que ce sont pas des nautiles énormes, ce sont des coquillages visages assez modestes, assez touchants d'ailleurs dans leur forme. On peut les décrire?
Oui, tout à fait. Il ne faut pas imaginer quelque chose d'ostentatoire.
Non, non. Il n'y a pas non plus un panneau avec écrit atelier de coquillages.
Non, pas du tout. Il s'agit donc, il faut imaginer des petits coquillages marins. Alors, ça peut rappeler à tout le monde la taille peut-être d'un bigorneau. Contrairement au bigorneau, on est plutôt sur des couleurs variées à l'état naturel. Hein. C'est des coquillages qui sont assez colorés. Et voilà, quelques 1 cm maximum de diamètre. Ils sont assez... Au moment où on les a fouillés, on a pu tout de suite voir la différence avec d'autres fragments qui pouvaient venir du calcaire. Mais c'est vraiment parce qu'en amont, on a eu cette attention qu'on a pu les distinguer. Mais on voit encore parfois les tours de spire. Et c'est, voilà, c'est assez émouvant.
Alors, comment on distingue ce type de coquillage d'un coquillage qui serait fossilisé dans le calcaire, justement?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui va déterminer qu'il n'y a aucune erreur possible?
Alors, ça, c'est un travail aussi de spécialiste. De connaître toute cette malacophone. Donc Solange Rigaud, qui est la spécialiste de l'étude, a pu identifier ces coquillages comme étant clairement des coquillages de l'Atlantique, marins, qui n'étaient pas du tout associés au calcaire turonien. En fait, simplement, c'est le genre et l'espèce de ces coquillages ne correspond pas du tout à ce qu'on a dans le calcaire environnant.
Vous parliez, Isabelle Crèvecœur, de pigments également. Est-ce que ce sont des coquillages qui étaient peints ou bien c'est les pigments naturels de ces coquillages?
Donc les coquillages, on suppose qu'ils les ont sélectionnés parce qu'ils avaient une forme, peut-être certaines couleurs. Les pigments, en fait, n'ont pas été utilisés pour colorer les coquillages. C'est assez clair que ce sont deux composants d'un atelier qui a dû avoir, qui s'est passé là. Alors, est-ce que c'était pour réfectionner un habit, une parure ou autre?
Une bijouterie teinturerie, en fait.
Voilà, ouais. Exactement. Les traces qu'on a sur les coquillages sont liées à de la diffusion dans le sédiment et pas du tout à une coloration volontaire.
Alors, parlons maintenant du fait que ces coquillages sont percés là aussi. Quel signe vous fait vous dire ça n'est pas un accident, ils n'ont pas été cassés, voilà.
Oui, on a des prédateurs qui peuvent parfois percer des coquilles. C'est assez bien documenté. Ici, de nouveau, c'est le travail, on va dire, d'études microscopiques qui permet de définir clairement qu'il s'agit de perforation par pression. On va imprimer une force à un point précis de la coquille. C'est fait de manière standardisée sur plus d'une trentaine de coquilles où on a ces percements volontaires qui sont conservés, on peut être sûr qu'il s'agit d'une activité anthropique. De la même manière, les traces de pigments, elles montrent des traces de percussion et ils sont aussi, comme les coquillages, pas d'origine locale, ce qui montre bien que c'est un apport anthropique.
Alors, on va parler maintenant des surprises auxquelles vous ont conduit cette découverte-là, mais peut-être qu'on peut revenir au fait que voilà, ces coquillages sont tous de la même espèce de mollusques. On parle de 180 fragments de coquillages. Ça, c'est la première surprise, la monospécificité de ces coquillages-là. Qu'est-ce que ça nous raconte?
C'est évidemment quelque chose de très important. Ils sont allés chercher un coquillage en particulier. Ce sont des littorines. Coquillage donc qui vient de l'Atlantique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut garder à l'esprit qu'on est en période glaciaire. Le niveau des océans est plus bas qu'à l'actuel. Et que la distance pour aller chercher ces coquillages depuis Saint-Césaire, elle est de 100 km. C'est pas anodin de se dire, quand on est dans des populations de chasseurs-cueilleurs, que l'on va aller chercher ou que c'est grâce à des réseaux d'échanges qu'on va aller sélectionner un ensemble de coquillages comme ça, monospécifiques. Ça traduit vraiment d'une intention très très nette.
Alors parlons maintenant de ces autres surprises, peut-être la date déjà. C'est le plus vieil atelier de parure en coquillage connu en Europe de l'Ouest. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça ailleurs en Europe d'ateliers aussi imposants, ou bien on peut dire que La Roche à Pierrot, Cocorico, détient le record du plus impressionnant atelier de parure en coquillage?
Déjà le seul atelier en coquillage, ça c'est évident parce que ces traces de perforation sur les coquilles, il faut savoir qu'il n'y a pas de traces d'usure. Donc il ne s'agit pas d'un pendentif ou autre qui aurait été laissé là après usage. C'est vraiment un atelier de fabrication. Et ça, c'est unique en Europe. Et ensuite, au niveau de la date, eh bien, on est à au moins 42 000 ans. Et dans le reste de l'Europe, il existe des sites où on trouve aussi des coquillages percés pour une période, donc cette période de transition. Dans le pourtour méditerranéen, ce sont des coquillages qui sont associés à la culture ulusienne, qui, comme le châtel perronien, marque cette transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Mais dans les sites donc autour de la Méditerranée, eh bien, on va avoir plusieurs types de coquillages. On va avoir des traces d'usure. On n'est pas du tout dans ce qu'on a à Saint-Césaire avec cette unicité et finalement cette petite fenêtre sur une activité qui a dû durer peut-être quelques heures maximum. Voilà, qui s'est tenue là.
C'est vraiment finalement là le rebut de ces parures qui n'ont pas été fabriquées. Alors bien sûr, on n'a pas une idée de ce à quoi ressemblaient ces parures, même si dans d'autres sites on a des parures comme ça qui se. On pense par exemple au chapeau de la dame de en Italie. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais voilà, de ces parures pour les têtes qui sont sublimes avec des coquillages, justement. On a une question aussi qui se pose tout de suite quand on parle de cette période de transition entre Néandertal, Sapiens, la période châtel-perronienne. Qui a fabriqué ces parures en coquillage? Est-ce qu'on a une hypothèse là-dessus?
Donc évidemment, c'est la grande question de savoir qui a fait quoi. On est dans cette période où en Europe, on a un bouleversement culturel et biologique qui est indéniable. Néandertal disparaît, Homo sapiens arrive. Et si on a des traces de comportements symboliques qui sont présents dans les sites associés à Néandertal, on a à certains endroits coquillages avec qui sont peut-être percés de façon naturelle. À d'autres endroits, on va avoir des serres de rapaces qui vont être collectionnées. Mais on n'a pas un comportement de production comme on semble le voir là pour ce site à La Roche-à-Pierreau, mais aussi dans d'autres sites où, pour le coup, Homo sapiens est clairement l'artisan de ce type d'ornement. Je pense à un site, le site de Bad Shukiro en Bulgarie, le site de Ranis en Allemagne, donc qui sont datés à peu près de la même période que celui de Saint-Césaire, qui sont associés aussi à des industries de transition et pour lesquelles on a des parures qui sont faites en os ou en dents animal. Ces parures-là, elles sont associées clairement à des restes Homo sapiens. Donc ici, pour le châtel-perronien, j'ai envie de dire le mystère reste entier parce qu'on a d'autres sites en France avec des traces aussi de présence encore néandertalienne, peut-être peinée contemporaine.
Quel site par exemple ?
Le site d'Arcy-sur-Cure par exemple, qui a aussi des parures, mais là uniquement sur os animal et dents animales. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que cette explosion, on va dire, de production symbolique liée à l'ornementation, à la manière de se parer, elle apparaît que à cette période de transition. Avant ça, je vous ai dit, c'est assez ténu et sporadique dans le monde néandertalien. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas au sein de notre espèce. Mmh. C'est présent en Afrique, ce type de comportement, le fait de percer des coquillages, on en a, que ce soit du nord au sud de l'Afrique, à 80 000 ans. Mmh. Homo sapiens, il fait ça. C'est pas nouveau. Mais en Europe, c'est nouveau. Et ça apparaît dans cette fenêtre entre 50 et 40 000 ans. Donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est si c'est Néandertal qui a fait ce châtel perronien, ce changement complet de manière de faire, de comportement par rapport à ce besoin de se parer, c'est difficile d'imaginer que ça ait eu lieu de façon intrinsèque, sans contact avec d'autres. Et si c'est Homo sapiens ce qu'il a fait, eh bien, peut-être que ce serait la trace donc de ces premiers groupes pionniers qui arrivent dans la région et qui peut-être côtoient d'autres populations néandertaliennes encore présentes.
Donc là, on a finalement une grande énigme, c'est celle d'un contact éventuel ou bien d'une acculturation.
C'est ça. On peut en tout cas poser le mot qui a été proposé déjà, je veux dire, depuis le début, depuis la découverte de pierrettes dans ce site châtel-perronien, puisque cette industrie châtel-perronienne rappelle plutôt ce qu'on a après au paléolithique supérieur, ce qui est fait par Homo sapiens. Et en fait, déjà à ce moment-là, rien que le fait de trouver ce néandertalien à cet endroit-là avait lancé ce débat sur l'acculturation. Ici, eh bien, on ajoute une pierre supplémentaire pour dire que dans tous les fait qu'à quel que soit, on va dire, le groupe humain qui l'a fait, cette découverte-là, elle traduit clairement d'un besoin d'identification, de reconnaissance, peut-être un besoin de structuration sociale qui semble se faire dans un paysage culturel et biologique très diversifié.
Et puis, vous évoquiez aussi le fait que ces coquillages ne viennent pas de la porte à côté. Alors, est-ce qu'ils ont été apportés sur le site? Est-ce que les occupants de ce site sont allés les chercher? Là aussi, plein de scénarios se mettent en place. C'est des scénarios qui ne correspondent pas forcément aux clichés, aux idées reçues qu'on a vis-à-vis de ces populations de cette époque-là.
Évidemment, ça ouvre énormément de perspectives, à la fois au niveau des réseaux peut-être d'échanges et de contacts. Le fait, comme vous le dites, d'aller chercher ces coquillages ou d'être en contact avec des populations qui sont aussi éloignées, c'est la même chose au niveau des pigments, puisque c'est Laure Daillet là, qui a travaillé là-dessus et qui a essayé de trouver les gisements d'origine de ces pigments. Elle a fait des prospections jusqu'à plus de 40 km autour du site sans trouver. Donc on sait que c'est au moins au-delà de ça. Donc ça traduit vraiment d'un réseau d'échanges. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, c'est étonnant. Le châtel perronien, jusqu'à présent, c'était des parures sur os, des parures sur dents. Là, on a cet atelier sur coquillage unique. Et qui rappelle ce qu'on voit autour de la Méditerranée. Donc, on a envie un petit peu de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas des réseaux encore plus larges que ce qu'on imagine ?
Finalement, des héritages de ces voyages de Sapiens qui seraient arrivés dans cette région. Voilà, là, c'est...
On peut tout imaginer.
On peut tout imaginer. Bon, c'est bien et c'est pas bien en même temps, ça, quand on est scientifique. Là, j'imagine que ça secoue un petit peu la boule à neige, ce genre de découverte, quand on a établi des choses... de façon fragile sur le châtel perronien, là, ça rebat encore les cartes.
Oui, et en fait, c'est ce qui fait tout le sel de la recherche, parce que on ne peut pas avoir de certitude. Voilà, ouais. On est prêt à toutes les possibilités.
Alors, cette découverte-là, elle en appelle d'autres. Comment vous allez continuer à travailler sur ce site-là de La Roche à Pierrot et quels autres travaux vous allez conduire et sur le site et aussi, bien sûr, dans ces collections qui préexistent?
Oui, donc les travaux, ils sont toujours en cours. Ce travail sur les coquillages, il appelle plein de nouveaux questionnements sur ce niveau châtel-perronien, sur la coordination avec les collections de François Lévesque, donc des fouilles de François Lévesque. On va évidemment continuer le travail d'analyse taphonomique pour essayer de comprendre si ce néandertalien, il est vraiment associé à ce niveau ou pas. Ça, c'est une part des travaux qui sont liés au PCR qui est en cours. Et puis, la fouille continue à La Roche à Pierrot. On fouille tous les ans, tous les étés. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, d'ailleurs.
Oui, si vous avez envie de faire des fouilles, c'est beaucoup de bénévoles, quoi.
Il y a des bénévoles qui viennent chaque année. Et puis, à côté, il y a le Paléocyte, qui est un centre d'interprétation. Donc, les fouilles sont visitables pendant notre campagne. Et là, on est sur les niveaux les plus anciens, les niveaux moustériens. Donc, Homo sapiens n'est pas encore là. Mmh. On est dans le monde néandertal complet. Et ces niveaux sont d'une richesse incroyable, puisqu'on est sur des déchets de vie de populations néandertaliennes qui sont restées là pendant certainement des milliers d'années. C'est un reste d'activité de boucherie avec des ossements d'animaux, du silex taillé. Et ces deux dernières années, on a aussi retrouvé des dents d'enfants néandertaliens, donc perdus du vivant de ces enfants.
Qu'est-ce qui vous fait vous dire que ce sont des dents d'enfants ?
Des dents d'enfants. Eh bien, alors, pour tous les gens qui ont des enfants, et pour vous, quand vous vous rappelez de votre propre croissance, eh bien, on va perdre nos dents de lait. Donc, ce sont des dents de lait qu'on a trouvées. Et ces dents de lait n'ont plus de racines. Donc, on sait la racine s'est résorbée suite à la croissance des dents définitives. Et puis, on perd ces dents et on a retrouvé ces dents mélangées quelque part aux déchets de boucherie et de taille.
Donc, c'est un repas qui s'est fini plus ou moins bien pour l'enfant néandertalien qui a perdu sa dent au passage, en croquant dans un morceau de viande peut-être un peu dur.
Peut-être, oui.
C'est l'idée. Alors, quels autres, finalement, travaux vous conduisez, puisque vous ne vous contentez pas de ce site de La Roche à Pierrot? Récemment, vous avez participé à une autre découverte, elle, en Belgique, là consacrée elle aussi à des cas pour le coup de cannibalisme, un sujet dont on avait parlé dans cette émission avec Amélie Vialet. Quelles ont été là ces découvertes-là? Ça nous emmène un petit peu ailleurs, mais tout de même c'est aussi pour montrer l'envergure et la palette de tous vos travaux.
Mais ça nous amène ailleurs, mais au niveau chronologique en fait on est à peu près dans la même période, hein, c'est celle de ces derniers néandertaliens, et effectivement c'est un autre travail qu'on a publié récemment sur ces traces donc de cannibalisme qui étaient connues dans cette grotte de Goyet en Belgique. Hein. Ça a été publié il y a plus de 10 ans. Mais ici, c'est un nouvel aspect en fait de cet assemblage qu'on a pu mettre en évidence. Grâce au travail donc de Quentin Connefroy qui a travaillé sur la morphologie de ces os. Il faut imaginer des os extrêmement fragmentés. On a surtout les parties inférieures des membres, les fémurs et les tibias. Et ces parties ont été vraiment fragmenté pour aller chercher la moelle osseuse. Donc ce sont des petits bouts d'ossements. Nous, on avait fait un travail de recollement de ces os pour essayer d'avoir des diaphyses, donc des morceaux les plus complets possibles. Et grâce à des acquisitions microdensitométriques, donc on va aller voir la structure interne des ossements, eh bien, on a pu essayer de caractériser ces restes et on s'est rendu compte que morphologiquement, c'était tous des individus assez graciles et assez petits, parmi les plus petits néandertaliens qu'on ait documentés. Et ce travail-là d'interprétation, d'études anthropologiques, il a été couplé à une analyse génétique de ces individus parce que l'ADN était extrêmement bien conservé. Et une analyse isotopique, c'est-à-dire un traceur à la fois de l'alimentation, mais aussi de la géographie d'origine de ces individus. Et on s'est rendu compte tout allait dans un sens assez incroyable, c'est-à-dire que c'était pas seulement des individus de petite taille, etc., c'était des femmes, en fait, et que ces femmes avaient un signal isotopique qui n'était pas local. On a 4 femmes, 2 enfants, et l'ensemble de ces individus viennent d'une même région, mais qui n'est pas la région d'origine du site de Goyet, qui n'est pas la région de la faune chassée par les personnes qui ont pratiqué ce cannibalisme. Et avec une série d'autres analyses statistiques pour essayer de tester la probabilité, hein, parce qu'il faut toujours être prudent en science, quelle est la probabilité d'échantillonner au hasard 4 femmes, 2 enfants dans un échantillon comme ça, eh bien, le site de Goyet est absolument improbable. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça de façon par un biais taphonomique ou par une sélection naturelle de morts. On a vraiment là une sélection des individus qui ont été cannibalisés en dehors de la zone de région qui nous a poussé à publier cet article et à parler de cannibalisme sélectif, en tout cas.
Donc cette découverte, elle est un peu plus anxiogène que celle qu'on a réalisée à La Roche à Pierrot. Pour conclure cette émission, il nous reste une petite minute 30, Isabelle Crèvecœur. Revenons à ce site plus léger de La Roche à Pierrot. Replaçons ce site dans l'histoire, justement, dans la longue histoire de la compréhension de ce châtel péronien. Là, c'est encore un coup d'éclat pour cette compréhension du châtel péronien. Comment on peut définir finalement l'importance de ce site renouvelé à partir avec cette découverte-là?
Disons que oui, à chaque fois, c'est une nouvelle lumière sur un contexte. Mais je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'on est sur des contextes extrêmement complexes qui ont subi des bouleversements géologiques, taphonomiques, et que en fait ça ne peut que nous rendre plus prudents à chaque fois qu'on commence à fouiller ces niveaux-là pour essayer pour réaliser à quel point on peut aller loin dans l'étude de ces données, même à partir de petits vestiges comme des coquillages, de la fragilité aussi de tout cela et de l'importance d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui viennent collaborer pour extraire un maximum d'informations de ces niveaux.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Isabelle Crèvecœur, d'être venue nous rappeler l'importance de ce site de Saint-Césaire. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos recherches.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.